Et nous allons ce soir voir notre premier thème sur l'introduction qu'on a fait la semaine dernière sur ce qui s'appelle, sur ce qu'on appelle de manière théologique, les dispensations. Alors je rappelle un petit peu le croquis. La grande flèche bleue, ça représente toute la chronologie de l'humanité, en commençant avec la création et qui se terminera par l'éternité, où là, en principe, destruction du ciel et de la terre pour commencer l'éternité. Et là, on a donc sous nos yeux toute l'humanité, l'histoire de l'humanité sous nos yeux et qui sont également retranscrits dans la parole de Dieu. Et à la lecture de l'évangile et des différentes périodes qui ont passé, notamment l'Ancien Testament, le Nouveau Testament et les événements qui vont venir, les événements prophétiques, ce qu'on appelle les événements de la fin du temps, les événements eschatologiques, il y a là, sous nos yeux, une sorte de découpage des grands événements de l'histoire, de l'humanité. Les grands événements, les grandes périodes de l'histoire. Un peu comme si, en France, on parle du Moyen-Âge, on parle de la Renaissance, on parle de la Seconde Guerre mondiale. Ce sont des périodes comme ça de l'histoire moderne. Et bien, l'humanité nous est, également, peut-être découpée par grandes périodes. Et donc, on va voir la première période, la première dispensation. La dispensation, qu'est-ce que c'est des dispensations? Ce sont des périodes où Dieu délègue son pouvoir aux hommes. C'est des périodes où les hommes ont dû être gestionnaires de la terre. Et donc la première période qui est connue par beaucoup, c'est ce qu'on appelle la période, la dispensation de l'innocence, qui est en fait ce temps qui est peut-être le temps le plus court par rapport à toutes les autres périodes. C'est la période où Adam et Ève sont où? Au jardin d'Éden. Alors cette période se lit dans la Bible, de la Genèse 1 jusqu'au chapitre 1er, jusqu'au chapitre 3, à la milieu du verset. Et effectivement, alors il est difficile de donner des dates. Cela dépend toujours un peu de l'interprétation des uns et des autres. Mais on peut penser que ça n'a pas duré beaucoup plus de 30 ans. Pourquoi 130 ans? Parce que c'est là une des dates qui nous est donnée où Adam a mis au monde Seth alors qu'il avait l'âge de 130 ans et on sait qu'effectivement il était déjà sorti du jardin d'Éden. Mais ça, déjà, c'est une précision qui n'est pas forcément la plus essentielle. On va essayer là ce soir de tirer des enseignements de cette période de l'histoire. Parce que c'est ça qui va nous intéresser pendant ces quelques semaines, c'est mais qu'est-ce qu'on peut retenir comme enseignement de toutes ces grandes périodes de l'humanité? La première leçon qui est à comprendre de cette période, c'est que l'homme est le summum de la création de Dieu. L'homme est la chose la plus belle, la plus parfaite. C'est là qu'il y a l'immensité de la perfection de l'œuvre que Dieu ait pu faire. Quand il crée le ciel, la terre, Dieu dit c'est bon, c'est bon, c'est bon. Le jour où il fait l'homme, il dit cela est très bon. Et ça, c'est une première leçon à retenir de cette période et peut-être la chose la plus importante, c'est que Dieu nous a fait à son image et dans cette expression qu'il nous a créée, bien sûr dans son image morale, spirituelle, Dieu ne s'est pas trompé. Je ne sais pas si vous dessinez bien, je ne sais pas si vous êtes fort en sculpture, si vous êtes fort en pâte à modeler les enfants, mais en tout cas quand Dieu nous a créés, il a dit que son œuvre était très bonne. La grande leçon à retenir, la chose la plus importante à réaliser, c'est que l'homme a une place privilégiée dans le cœur de Dieu. À tel point que on connaît dans les évangiles, c'est notamment Jean qui le dit, 1 Jean chapitre 4 verset 20, que si quelqu'un dit « j'aime Dieu » mais qu'en même temps il déteste son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il dire qu'il aime Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime aime Dieu aime son frère. Parce que si l'homme est la chose la plus précieuse que Dieu ait créée, nous avons le devoir d'aimer ce que Dieu aime. Et ça, nous ne devons jamais oublier cette réalité, mes bien-aimés. La chose la plus importante sur terre, c'est notre prochain. La chose la plus importante aux yeux de Dieu, c'est l'homme, c'est l'individu. Pas les hommes, mais l'homme, la femme, l'individu, l'enfant, le vieillard. Quand nous voyons une personne, nous devons voir sous nos yeux la chose la plus aimée de Dieu. Est-ce qu'on regarde les gens comme ça ? De temps en temps, on se laisse arrêter au bien, au pas bien, à la tête, au look, aux formes, au parfum, au style que la personne a. Mais nous devons apprendre en tant qu'enfants de Dieu à regarder chaque individu comme étant la personne la plus aimée de Dieu. Parce que c'est ce que l'on est véritablement. La deuxième chose qui est à retenir de cette période-là, c'est que l'homme a été placé comme un gérant, comme un intendant de la création. Dieu a créé tout, le ciel, la terre, il a créé le jardin d'Éden. Éden, ça veut dire délice. Et il dit à l'homme, et l'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin pour le cultiver et pour le garder. L'homme qui est sur cette terre n'est pas une sorte d'électron libre. Il fait ce qu'il veut, il est un peu perdu. Oh, comme on ne sait pas trop quoi faire pendant les 24 heures, bah, on va regarder la télé, on va aller voir les copains, on va aller au bar, on va s'amuser avec les copains, on va travailler. Non, on dirait que l'homme sur cette terre, il cherche à occuper le temps. Alors que ce n'est pas du tout dans la logique de Dieu. On voit, et c'est une deuxième grande leçon à retenir, que Dieu donne des responsabilités à l'homme. Il l'a placé comme étant intendant, gérant de ce que Dieu lui-même a construit. C'est extraordinaire. C'est comme si vous, demain, vous étiez en train de construire une maison et vous preniez quelqu'un dans la rue et vous dites, voilà, sois le gardien de cette maison. C'est comme extraordinaire. Celui que vous prendriez, il n'a rien fait, il n'a pas transpiré, il n'a rien fait du tout pour la construction. C'est vous qui avez tout fait. Vous avez sué, vous avez payé, vous avez tout fait. Mais vous donnez confiance à quelqu'un, à un étranger, à un inconnu, pour qu'il soit le gardien de cette maison. Et bien c'est exactement ce que Dieu a fait. À part que je crois que la construction de Dieu est bien plus belle que toutes nos maisons. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui habite dans un palais, même ce soir. Mais j'ose vous dire que même votre palais, devant l'immensité de la création, devant la beauté du ciel, de la terre, la perfection de ce que Dieu a créé, c'est rien du tout. Et Dieu nous a placés sur cette terre comme étant responsables, des gérants, des intendants. Vous vous rendez compte, il nous a même rendus participants. Et Dieu a même demandé à Adam de donner un nom aux animaux. Quelle responsabilité, quelle confiance. Et ça, c'est une réalité encore présente. La première épître aux Corinthiens, je cherche les références exactes, chapitre 3, verset 9, dit que nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Et ça, c'est une très belle leçon. La troisième leçon que l'on peut tirer de cette période, c'est qu'il y a eu un contrat. Ouvrier, c'est quand on travaille avec quelqu'un. D'accord ? Quand toi, tu vas à l'école et que tu fais des devoirs avec quelqu'un, ben c'est comme si c'était un ouvrier avec quelqu'un. Vous faites du travail ensemble. Et ben nous sommes ouvriers avec Dieu. On peut travailler avec Dieu et Dieu avec nous. La troisième caractéristique de cette période, c'est qu'il y a eu un contrat, une alliance qui a été établie. Et ça, on va le voir, à chaque fois, il y a un contrat, il y a une alliance, il y a un accord qui a été fait. Je vous lis cette alliance qui a été faite, c'est en Genèse chapitre 2, verset 16. L'Éternel donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Il n'y a pas beaucoup de versets à retenir, La seule chose qu'on lui demande à Adam, tu ne manges pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tu ne manges pas. C'est facile à retenir, non? Je suis sûr qu'en en répétant 2-3 fois, vous le connaissez par cœur. Tu ne mangeras pas du fruit de l'arbre. Seul. Avec, et fais attention, c'est une condition. Tu risques de mourir si tu le fais. On voit bien que, et retenez ça parce que là on arrive en fait à l'essence même de la leçon, c'est que le principe que Dieu a établi, c'est l'obéissance. Il n'y a pas dans ce contrat, il n'y a pas de choix. Dieu ne dit pas fais ceci ou fais cela. Il dit tu dois obéir. Et en fait, il y a dans le cœur d'Adam un choix qui lui est placé. Le choix d'obéir ou le choix de ne pas obéir. Et là, regardez comme ce principe, il est toujours réel dans nos existences. Parce que le choix de l'obéissance, il nous est fait tous les jours. Tous les jours. On doit choisir d'obéir. On doit choisir d'obéir même quand cela nous contrarie. Je choisis d'obéir même quand la chose m'attire. Je choisis d'obéir au commandement de Dieu même si les raisonnements me poussent à penser autrement. Je choisis d'obéir, pardonnez-moi, même comme ça me gratouille dans l'estomac et que vraiment la tentation est forte. Mais je choisis d'obéir à la parole de Dieu. Je choisis d'obéir même si il y a peut-être des opportunités intéressantes au vol, au mensonge. Le principe que Dieu aurait voulu voir en Adam, c'est que Adam fasse le choix de l'obéissance. Est-ce que nous faisons tous les jours, à chaque instant, le choix de l'obéissance? Est-ce que chaque fois, devant un sacrifice, devant une abnégation, devant une situation, on se dit, non, je préfère obéir plutôt que de déplaire à Dieu. Non, je préfère obéir plutôt que de continuer mes traditions. Non, je préfère obéir à la voix de Dieu plutôt que de m'engager dans des discussions vaines. Non, je préfère obéir à Dieu plutôt que de laisser la colère grandir. Non, je préfère obéir plutôt que... etc., etc. Et l'obéissance est un point fondamental. Et c'est le premier point. C'est le premier point, c'est la première alliance, c'est la première leçon, c'est le premier repère qui nous est donné par rapport à tout le reste de l'humanité. Voyons même. Et là, je vous invite à lire avec moi. Genèse chapitre 3. Là, on va voir et on va retenir quelques leçons à retenir par rapport à l'événement de la chute. Genèse chapitre 3, versets 1 à 5. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Mais vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » Alors on a lu ensemble là, et je voudrais retenir trois points sur cet événement de la chute. Le premier point, c'est que quand même, il aurait dû y avoir une sorte d'avertissement lorsque Ève a vu le serpent. Ils sont dans le jardin. Adam devait garder le jardin. Et voilà qui se présente à cette chère femme, un animal des champs. C'est pas bizarre ça? Est-ce que ça n'aurait pas dû l'interpeller? Je suis dans un jardin et il y a là un animal des champs. Soyons vigilants. Parce que les leçons que nous devons tirer là, sur la chute d'Adam et Ève, seront les mêmes techniques que le diable utilisera pour chacun d'entre nous. Et nous devons être vigilants. Ne laissons pas entrer dans nos cœurs ce que nous savons devoir laisser dehors. Alors j'ai énuméré l'amertume, la colère, l'orgueil, la prétention, le vol, le mensonge, l'hypocrisie. Mais on peut mettre plein de petits points sur toutes ces choses que l'on sait devoir laisser dehors. Mais qu'on peut laisser rentrer. Croyant, c'est pas si grave. C'est presque inoffensif, il ne fait pas de mal. Mais laissons également dehors les fausses doctrines. Laissons dehors les séductions. Laissons dehors les faux enseignants. Pierre nous le rappelle que le diable est comme un lion rugissant et il rôde. Il est toujours autour de l'église, autour de nos vies, autour de la parole de Dieu. Et il cherche à faire intrusion. Et c'est à nous d'être vigilants. Ne soyons pas des naïfs. Bien sûr que le diable ne viendra jamais vers nous avec horreur. Il viendra toujours vers nous avec subtilité, avec séduction, avec des nouveautés, avec des choses très intéressantes, très attrayantes. C'est comme ça que le diable opère. Mais c'est à nous d'être vigilants. Nous sommes du royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Et tout ce qui n'a pas cette identité-là doit rester dehors. Tout ce qui n'est pas conforme à la parole doit rester dehors. Même si ça paraît très, très intéressant, très joyeux, même si tout le monde dit l'inverse. Ce que nous, on doit rechercher, c'est à garder le jardin et le royaume de Dieu tel qu'il nous a été donné. La deuxième subtilité et leçon à retenir, vous connaissez peut-être le proverbe qui dit « Le mieux, c'est l'ennemi du bien. » Le mieux, c'est l'ennemi du bien. Qu'est-ce que veut dire ce proverbe? Cela signifie que, en cherchant mieux, on risque de perdre ce qui est bien. Je ne sais pas s'il y a des bricoleurs, t'entends, au milieu de nous, mais du genre, on est en train de serrer quelque chose, on dit, je vais serrer encore une petite dernière fois, et c'est au moment où on serre un peu plus qu'il y a la chose qui se casse. Ou il y a des peintres. Ah, ils vont faire, il y a une petite touche de couleur, là, et là, ils vont rajouter la petite couleur. Et c'est là que non, c'est encore pire qu'avant. Le mieux est, de temps en temps, pire que le bien. Et bien, dans l'histoire que nous avons lue, il y a une histoire de, en croyant faire mieux, en fait, ils ont fait mal. Peut-être que vous n'avez pas fait attention. Mais Dieu donne un ordre. C'était quoi l'ordre, au fait, que Dieu avait donné?
De
ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance. Et quand le serpent discute avec Ève, ben vous ferez attention. Ève ne dit pas qu'il ne faut pas manger. Elle dit, oh, Dieu a dit qu'il ne faut pas manger et qu'il ne faut pas toucher l'arbre. Mais attends. Mais pourquoi est-ce qu'elle rajoute ça, elle? Dieu a juste dit qu'il ne fallait pas manger. Et elle dit, Dieu a dit qu'il ne fallait pas toucher et ne pas manger. Mais là, il y a un ordre en plus. En fait, le commandement était donné à qui? À Ève? Elle n'était pas encore. À Adam. Donc c'est forcément Adam qui a dit à Ève ce commandement-là. Qui a dû lui dire, tu sais, Dieu a dit qu'il ne faut pas toucher, qu'il ne faut pas manger. Mais là, il y a usurpation de la vérité. Et je pense que, en me mettant dans la logique d'Adam, il a dû se dire, bon, Dieu a dit de ne pas manger, mais moi, pour être bien sûr que ma femme, elle n'en mange pas, je vais même lui dire de ne pas en toucher. Cette subtilité-là, elle continue d'exister, vous savez. Quand on veut être plus exigeant que Dieu, plus dur que Dieu, plus juste que Dieu, plus extrémiste que Dieu, enfin, même si Dieu n'est pas extrémiste. Et Paul en avait déjà parlé. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 4, verset 6, il va dire, j'ai fait de ces choses une application à ma personne, afin que vous appreniez à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Paul disait déjà aux chrétiens qu'il ne faut pas aller au-delà de ce qui est écrit. Ce qui est écrit, c'est écrit. Ne cherchez pas à rajouter. Ne cherchez pas à aller plus loin. Ne soyez pas plus exigeants. Ne soyez pas plus extravagants, dirais-je même. Restons dans les limites de l'écriture. Sans chercher ni à minimiser. Mais sans non plus exagérer les écritures. Déjà dans Ecclésias chapitre 7, verset 16. Il ne nous est demandé à nous, êtres humains, de ne pas être juste à l'excès. Et il arrive que d'entendre au nom de Dieu, on soit plus exigeant que Dieu. Il arrive qu'au nom de la parole, il est écrit. Et au lieu d'édifier notre frère, on lui coupe la tête. Il est écrit. Et au lieu de l'encourager, on lui coupe les jambes. Gardons la parole. Gardons ses principes. Gardons ses objectifs. Gardons sa mentalité. Ne restons pas seulement à la lettre, mais soyons à la lettre et dans l'esprit de l'écriture. La troisième subtilité que le diable a réussi à faire dans cette circonstance, c'est que le diable, en discutant avec Ève, a éveillé deux sentiments dans son cœur. Deux sentiments qui sont très légitimes. Le premier sentiment, c'est le sentiment de la sécurité. Ève est très consciente de l'ordre de Dieu. Il ne faut pas qu'elle mange, parce que Dieu a dit que s'il mangeait, il mourrait. Le commandement est simple, et la justice est simple. Et là, le diable, il a dit, mais non, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Pas vu, pas pris, rassure-toi. Puis de toute façon, qui saura? Alors bien sûr, c'est pas tout ce qu'il dit. Il dit, tu ne mourras pas, mais nous, on connaît toutes les paroles que je viens de dire, toutes les manières que le diable a d'essayer d'anesthésier le danger des conséquences du péché. Mais non! Mais tout le monde fait ça! Mais oh, faut pas exagérer! Mais tu sais, Dieu pardonne! La notion de la sécurité. Rassure-toi! C'est pas si grave. Si c'est grave. Si c'est grave, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et même si le diable essaye de nous rassurer, même si le diable nous dit, mais non, oh, tranquillise-toi, c'est un mensonge. D'ailleurs, la deuxième chose qu'il dira, c'est la subtilité de l'indépendance. Et ça, c'est vraiment ancré dans notre nature, ça. Même ceux qui disent aimer Dieu, il y a quelque chose qui est malsain en dedans de nous, c'est l'indépendance. On le lit quand le diable dit à Ève, tu sais, vous serez comme Dieu. Si vous mangez de ce fruit, vous serez comme lui. Ça veut dire quoi? On sera comme Dieu. Mais ça veut dire que dans l'esprit de Adam et Ève, ils disent, bah, si on est comme lui, on n'a plus besoin de lui. Plus besoin. Si je suis comme lui, j'ai plus besoin de son aide. J'ai plus besoin de sa présence, j'ai plus besoin de son amour, j'ai plus besoin de sa sagesse, j'ai plus besoin de ses commandements. Je m'affranchis, étant donné que je suis comme toi, je suis légal. Et ça, c'est une supercherie. Parce que qu'on le veuille ou pas, nous sommes créés pour dépendre de Dieu. C'est en nous. Alors c'est un grand mensonge de nous faire croire qu'on peut être indépendant de Dieu. T'as pas besoin de lui, tu peux te débrouiller tout seul, tu peux te sauver toi-même, t'as qu'à faire ceci, t'as qu'à faire cela, et puis les autres ils sont comme ça, vas-y, débrouille-toi tout seul. Mais c'est un mensonge. Nous avons besoin de Dieu parce que nous sommes dépendants de Dieu. Un enfant est-il dépendant ou indépendant de ses parents? Un enfant est dépendant de ses parents. Il dépend. Il n'est pas prisonnier, mais il dépend de ses parents comme nous. Nous dépendons de Dieu. C'est naturel, c'est normal. Un arbre, est-ce que vous avez déjà vu un arbre comme ça, poussé dans la nature, sans rien? Il dépend. Il dépend de la pluie, il dépend de la terre, il dépend de son environnement. Nous dépendons de notre Créateur. Tout ça, c'est dans cette nouvelle dispensation où Dieu nous apprend que nous sommes le centre de l'intérêt, que nous sommes les intendants de ce qu'il a créé, que nous sommes appelés à obéir tout en lui faisant confiance, que nous sommes appelés à dépendre de sa présence. Mais je dirais que par rapport à tout ce que l'on va voir, la grande leçon à retenir de cette période de l'histoire, la grande leçon à retenir, c'est que même dans le meilleur des contextes, l'homme chute à cause de sa désobéissance. Et c'est ça qui est incroyable. Adam et Ève sont placés dans un jardin de délices, de perfection, de grâce. Ils ont une relation parfaite avec le Seigneur. Ils n'ont pas de maladie, ils n'ont pas de souffrance. Il n'y a point de querelle. C'est l'osmose, c'est la symbiose, c'est l'harmonie, c'est tout ce qu'on peut imaginer de ce qu'il y a de plus parfait sur cette terre. Et malgré un contexte parfait, ils désobéissent par un seul principe, la désobéissance. Et ça doit nous faire réfléchir. Parce que bien souvent, nous prions souvent et beaucoup pour les circonstances. Seigneur, guéris-moi. Seigneur, bénis mon épouse. Seigneur, s'il te plaît, débloque cette situation. Seigneur, tu vois là, comme c'est compliqué. Seigneur, s'il te plaît. Croyant que, si le contexte est favorable, alors, on sera bien. J'ai même entendu des gens qui disaient, Seigneur, quand ça ira bien, je te servirai. Seigneur, si tu exauces ma prière, alors je te promets, je te donnerai ma vie. Mais c'est un mensonge. Parce que si Adam et Ève étaient dans le meilleur des contextes et qu'ils ont chuté par désobéissance, croyez-moi, on ne va pas être meilleur qu'eux. Et que le réel objectif que nous devons fixer dans notre cœur, ce n'est pas Seigneur, change les contextes, mais apprends-moi à t'obéir. Apprends-moi à faire le choix de l'obéissance. Apprends-moi toujours à faire ce qui t'est agréable. Alors dans ce contexte un peu tragique, parce que c'est quand même le tragique, Dieu fait tout pour que tout se passe bien et c'est l'homme qui détruit tout en, par orgueil, par vanité. Il y a, il faut le dire, dans cette dispensation, l'annonce de la restauration. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et te blessera le talon. Il y a déjà, dès le chapitre 3, l'annonce de ce sauveur qui viendra écraser la tête du serpent. On sait que le serpent, c'est le symbole du malin. Et que cette postérité, cette naissance, cette génération qui viendra écraser, on sait qu'elle a été accomplie en Jésus-Christ. Et Dieu a même déjà préfiguré le premier des sacrifices, parce que au verset 21 de ce même chapitre 3, Dieu lui-même va accomplir le premier sacrifice sanglant. Adam et Ève qui étaient nus et qui n'en avaient point honte, à cause de leur péché, la mort est rentrée en eux, la honte, la peur est rentrée en eux. Eux-mêmes étaient perdus, ils se cachaient avec des bouts de feuilles là, ne sachant pas quoi faire. Et Dieu a déjà accompli en préfiguration de ce sacrifice parfait. Le sacrifice d'une bête sanglante pour les couvrir d'un habit de peau. Déjà Dieu, alors que lui-même avait déjà tout pourvu pour leur bonheur, après leur échec misérable, il commence déjà à faire l'annonce d'une solution à venir. Amen. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui nous sommes ici. Juste deux mots pour nous rappeler une chose. Je vais vous lire juste le verset. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la première épître de Pierre, chapitre 1er, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ entre les morts. Il nous a régénéré. Ça veut dire quoi ce mot un peu compliqué ? Régénérer, ça veut dire remettre dans un état initial. Remettre une chose abîmée, cassée, salie. Régénérer, c'est le remettre à l'état qu'il était au commencement. C'est-à-dire que nous qui sommes en 2015 et qui avons été abîmés, salis, détruits par notre désobéissance et par notre péché, Dieu a un plan en Jésus-Christ. C'est de nous régénérer, de nous remettre à l'état initial, avec ce désir de relation, avec ce désir de dépendance, avec ce désir de confiance entre Dieu et nous, entre cette relation de paix, cette relation d'obéissance volontaire. Il nous amène à revivre dans un état de dépendance à l'égard de Dieu. La seule chose qui va changer, c'est un peu le contexte. Parce que même si nous donnons notre cœur au Seigneur et qu'on le laisse changer, qu'on le laisse nous régénérer, on va pas retourner dans le jardin d'Éden. Désolé. On va continuer à vivre dans un monde qui est abîmé, qui est sali, qui est sous l'emprise du malin, rempli de tentations, rempli de méchanceté, rempli d'injustice. Dans un monde où la maladie peut frapper à n'importe quel moment, où la haine peut taper n'importe où, où effectivement les difficultés de la vie sont à supporter. Mais quelle est la grande leçon qui était à retenir ? C'est que dans le jardin d'Éden, ce n'est pas à cause du contexte qu'ils ont tenu ou qu'ils n'ont pas tenu. Et nous, c'est la même chose aujourd'hui. Si Dieu nous permet de retrouver une relation avec Dieu, si Dieu nous permet d'être régénérés, si Dieu nous permet de retrouver une dépendance avec lui, si Dieu nous permet d'avoir une relation de paix, de pardon, de grâce avec Dieu, s'il nous permet de revivre dans une dépendance et dans un service avec lui, cela ne dépendra pas des circonstances, cela dépendra uniquement de notre volonté d'obéir. C'est ça qu'il y a à retenir. Ce que Dieu attend de nous, ce n'est pas que les circonstances changent, mais que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous soyons des hommes et des femmes obéissants. Et c'est ça qui nous maintiendra. Que les circonstances soient favorables ou défavorables. Et je prends pour exemple concret les circonstances où, par exemple, en Europe, on a la liberté de venir dans les églises. On peut acheter une Bible, deux Bibles, trois Bibles. On peut les distribuer. On peut parler du Seigneur dans la rue. Et pourtant, quel manque de sanctification. Quel manque de consécration. Quel manque d'obéissance, de droiture, d'honnêteté. Alors que dans des circonstances où les chrétiens sont pourchassés, où certaines même sont violées, d'autres mis en prison, d'autres battus, pour le seul fait d'avoir une portion de la Bible, ils sont emprisonnés pour plusieurs années de prison. Et pourtant, dans ces contextes défavorables, l'évangile grandit. Alléluia. Des vies sont changées. La grâce de Dieu se manifeste. Quel est le problème ? Un problème de contexte ? Ou un problème d'obéissance ? Voilà la première leçon à choisir et à réaliser de cette première grande dispensation. Amen.